Quand nos enfants passent des mauvais moments, c'est pas toujours facile comme parent de savoir comment les aider. Et je me suis dit que mon prochain invité, du haut de tout ce savoir-là en 10 livres et d'un doctorat en neurosciences, pouvait certainement nous aider. Et comme au fil du temps, c'est une émission intergénérationnelle, ben je vais aussi lui poser des questions sur comment les grands-parents peuvent aussi aider leurs petits-enfants. Alors, Joël Monzé, bonjour.
Bonjour.
On va d'abord parler de la rentrée scolaire parce que ça s'en vient très rapidement et votre expertise, elle est manifeste là, dans tout le lien sur le développement du cerveau des enfants. Alors, selon vous, quel va être l'impact sur le cerveau des enfants sur la pandémie?
En fait, tout dépend vraiment de la manière dont les parents, les adultes vont être autour des enfants. Si les enfants sont capables d'être dans un environnement qui est très sain, dans le sens que les adultes arrivent en fait à bien maîtriser leurs propres émotions, à ce moment-là, il va être possible pour eux de passer à travers cette crise sanitaire sans avoir trop de dégâts. Par contre, si les adultes sont en difficulté et que les adultes ne prennent pas soin d'eux, on risque peut-être d'avoir des traumas qui vont s'accumuler au fil du temps. Souvent, on peut entendre des adultes qui disent « Oh, les enfants, ça s'adapte à tout, ça a plus de résilience que les adultes » et ainsi de suite. Ben, moi, je leur réponds « À quel prix ?»
Oui, absolument. À quel prix ? Vous avez tellement raison. Donc, que peut-on dire aux parents pour faciliter l'intégration de prendre soin de soi d'abord?
Oui, parce que si l'adulte va bien, il va être capable de pouvoir être écoute et être bienveillant envers l'enfant, quel que soit son âge. Il faut savoir que notre cerveau atteint sa pleine maturité entre 40 et 45 ans et que, les parties les plus importantes pour bien gérer nos émotions sont celles qui maturent le plus tard, en fait, au niveau de notre cerveau. Ce qui fait que plus on vieillit, plus on est capable de gérer nos émotions, gérer le stress, gérer l'anxiété dans des situations qui sont anxiogènes. Mais plus on est jeune, plus on est dépendant des aînés pour arriver à bien gérer les émotions.
Et du côté, justement, imaginons là, qu'on a vieilli assez pour être rendu un grand parent, un vrai aîné. Comment ce rôle-là plus particulier peut influencer les enfants à bien vivre une telle transition?
Mais je crois que, comme je disais tantôt, le cerveau atteint sa pleine maturité seulement entre 40 et 45 ans. Donc souvent, le parent, quand il devient parent, il a quoi, 25, 30 ans? C'est, même si de plus en plus de gens attendent un peu plus pour avoir leur premier enfant, ça reste quand même que les jeunes parents ont un cerveau qui n'est pas encore entièrement développé. Ils veulent maintenir leur carrière, ils veulent performer, ils veulent faire plein d'activités avec leurs enfants. Ils font, et parfois ils sont tellement surinvestis auprès de leur enfant qu'ils oublient de prendre soin d'eux, ils oublient de prendre soin du couple, donc il y a beaucoup de séparation, ce qui amène d'autres formes de défis pour les jeunes d'ailleurs, alors que le grand-parent, il en a vu d'autres.
Oui.
Il a eu l'occasion d'expérimenter plein de choses. Et il y a une certaine sagesse qui, normalement, doit être présente chez un aîné, qui peut venir tempérer les choses. Le grand-parent a souvent plus de temps pour jouer avec le jeune, là où le parent est parfois dans une course, en fait, pour maintenir sa qualité de vie et le professionnel, familial, et ainsi de suite.
Et est-ce qu'on pourrait faire un lien justement entre le cerveau des enfants qui s'expriment davantage dans leur corps, j'ai lu ça dans vos écrits, et celui des aînés, là, peut-être plus âgés, dont la mémoire commence à flancher, que la parole est moins présente, comment le cerveau vieillit, là, vous parlez de la maturation vers 40-45 ans, mais un petit peu plus tard, est-ce que, tu sais, des fois on va dire il retombait en enfance, là? Quelle sorte de lien on peut faire entre le cerveau vieillissant et celui des enfants?
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau se reconditionne tout le temps. Et en fait, au-delà de 40 à 45 ans, on a deux groupes d'individus. On va avoir un groupe d'individus qui vont maintenir l'épaisseur de leur cortex préfrontal, qui est la partie la plus humaine de notre cerveau, qui vont la maintenir jusqu'à la fin de leur jour et ils vont vivre une belle vieillesse. Et vous avez un deuxième groupe où le cortex préfrontal surtout va se rapetisser au fur et à mesure que le temps passe. Et ce sont ces personnes-là qui, d'une part, risquent d'avoir peut-être des comportements un peu moins agréables, un peu plus enfantins, comme vous le disiez tantôt, mais surtout, ce seront les candidats à la sénilité et à l'Alzheimer. Et la seule différence entre les deux groupes, ce sont nos habitudes de vie. Autrement dit, c'est normal de perdre des neurones à tous les jours. En fait, on a des milliards de neurones qui sont présents au moment où on est. Et il va y avoir un élagage de neurones non utiles au fur et à mesure qu'on vieillit. Si ce soir, vous prenez un peu trop d'alcool, ben, vous risquez peut-être d'en éliminer 100 000 d'un coup, ce qui n'est pas l'idéal. D'accord? Donc, c'est quand je disais les habitudes de vie sont très importantes. Oui. Donc, les pertes de mémoire sont normales et ne sont pas nécessairement synonymes d'Alzheimer. C'est parce qu'on peut perdre des neurones. Et le cerveau, si on maintient des activités intellectuelles, si on maintient des activités de vivacité d'esprit, si on continue à s'intéresser à tout ce qui se passe autour de nous, eh bien, la mémoire, c'est quelque chose qui évolue. Donc, OK, des neurones qui peuvent éventuellement disparaître ou qui sont reconditionnés pour d'autres formes de mémoire, à ce moment-là, ben, si on prend l'habitude de s'entraîner, d'entraîner notre mémoire, ben, on ne va pas la perdre.
Avez-vous des suggestions pour garder notre mémoire et notre cerveau bien actifs?
Mais en fait, si on reste curieux, curieux de tout, tu sais, parfois, on a fait un travail qui fait en sorte qu'on a peut-être bien gagné notre vie, mais souvent, bon, ben, y a peut-être des choses au niveau des études qui ont été positives ou négatives, mais qui nous ont conduit dans une profession, dans un travail qui n'était peut-être pas nécessairement ce qu'on aurait voulu faire ou ce qu'on aurait choisi quand on a 40 ans ou 50 ans. Donc, quelque part, la retraite permet aux gens de peut-être explorer justement ce pourquoi ils ont beaucoup d'intérêt, ce pourquoi ils ont envie d'être curieux. Donc, plus on est dans notre curiosité, dans notre plaisir d'apprendre, et plus à ce moment-là, on va apprendre. Et on ne peut pas apprendre de la même manière à 40 ans que la manière dont on étudiait quand on était adolescent, parce que les structures sont différentes au niveau de la mémorisation. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est très difficile de faire un retour aux études après 35 ans, parce que le cerveau doit se réadapter à une autre forme d'apprentissage. D'accord? Il faut beaucoup plus faire des liens, beaucoup plus tenir compte des expériences passées pour intégrer la matière que d'étudier bêtement par cœur comme on pouvait le faire au secondaire. Donc, savoir que c'est vraiment notre curiosité, notre plaisir de vivre va faire en sorte que notre mémoire va être vive d'esprit. Ou alors, vous avez le goût de démolir votre mémoire et vous regardez Occupation double.
Je vais pas commenter ça. Non, j'avoue que les documentaires nous tiennent beaucoup plus actifs. Vous avez bien raison.
Tout à fait. Et c'est donc qu'il faut, dans ce que je disais, c'est d'aller vers des émissions de radio ou des émissions de télévision qui nous rendent intelligents, qui font attention à qui on aime. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas se détendre, mais il y a des films qui vont contribuer à la maturation de notre cerveau, alors que d'autres, par exemple, comme des films d'horreur, vont contribuer exactement à l'inverse, vont compliquer en fait la maturation de notre cerveau, vont induire beaucoup plus des zones très très réactives, très défensives, et c'est ce qui fait en sorte que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure des idées à faire. La même chose si depuis le début de la pandémie, les personnes ont passé des heures et des heures devant LCN ou RDI à écouter toutes les annonces terribles qu'ils nous font depuis 6 mois, mais c'est certain que la télévision, à ce moment-là, devient un outil qui va à l'encontre de ce qu'on a besoin pour avoir un cerveau en santé.
Bien, on espère, justement, au fil du temps, d'être une émission de radio intelligente qui contribue à garder un cerveau bien alerte. Et pendant que je vous ai avec moi, j'ai introduit notre émission en disant que je vivais une transition de vie. J'ai un fils là, qui part en résidence et je me demandais justement le lien entre les étapes de vie et le cerveau.
En fait, je dirais que chaque fois qu'on a une crise, c'est qu'il y a une étape de maturation cérébrale qui est en train de se jouer. Vous savez, le fameux terrible tout, ou le fucking fort à 2 ans et à 4 ans, c'est vraiment deux périodes de maturation énorme et de développement d'habiletés comportementales très particulières, d'où beaucoup de respect qu'on devrait avoir envers ces enfants-là, parce que c'est une période de vie où, vous savez, les contacts en les neurones, on appelle ça des synapses. Et dans la petite enfance, un jeune enfant fait 300 millions de nouvelles synapses à tous les jours. Mais s'il ne se sent pas en sécurité, il n'en fait plus aucune jusqu'à ce qu'il se sente en sécurité. Donc la crise de l'enfant demande un parent bienveillant ou un grand-parent bienveillant pour sécuriser l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui mettre des limites. Les limites font partie de la sécurisation, mais c'est la manière dont on va exprimer nos limites. Eh bien, on a la même chose à l'adolescence. Ouais. Il y a 5 grandes étapes de développement de l'adolescence entre 10 ans et 25 ans. Et chacune de ces crises-là, c'est un saut quantique en termes de maturation cérébrale. Donc là aussi, l'adolescent a besoin d'être accompagné. Et si votre jeune part vers la résidence, ben, il est peut-être en train de sortir de la 4e, il va bientôt rentrer dans la 5e crise d'adolescence et il a besoin aussi d'être sécurisé, même si c'est un environnement différent.
Oui, tout à fait. Puis en même temps, il me disait qu'il avait besoin de maturer, il avait besoin de prendre son envol et d'être dans des circonstances là, où il est un petit peu plus livré à lui-même.
Oui, oui, et ça fait partie du développement. Il faut savoir que l'adolescence n'existait pratiquement pas il y a une centaine d'années.
On travaillait
beaucoup
tôt.
Beaucoup de
hein?
gens les travaillaient. Un exemple en conférence que j'adore prendre, c'est Émilie et Ovila dans Les Filles de Caleb. Bon, ben quelque part, on a une enseignante primaire qui couche avec son élève. Oups!
Oups!
C'est difficile de s'imaginer ça aujourd'hui parce qu'il y a au moins 10, 12, 14 ans entre l'enseignante, même si elle est en début de carrière, et son élève, que par exemple en 6e année primaire. Mais il y a 100 ans, Émilie et Ovila, ben, on allait à l'école jusqu'à 14 ans, on faisait 8 années d'école primaire, et puis quelques mois d'école normale, dans le cas d'Émilie, et puis elle revenait après dans une école de rang, ce qui fait que la différence d'âge entre Ovila, qui devait avoir peut-être 13 ans et demi, 14 ans, et Émilie, qui devait avoir 14 ans et demi, peut-être maximum 15 ans, mais le lien entre les deux est très, très proche. D'accord? Donc, c'était normal qu'ils puissent éventuellement tomber en amour. Ouais. Mais ça montre qu'aujourd'hui, à ce moment-là, il fallait 14 ans pour être prof, il en faut 24 aujourd'hui. Donc, on a ajouté 10 années de scolarité parce que notre société est devenue complexe. Et donc, l'adolescence n'existait pas il y a une centaine d'années. En tout cas, elle prenait d'autres formes. On était médecin à 18 ans. Et à partir de là, il faut juste se rendre compte que nos ados, ben, ils ont besoin de prendre leurs ailes tout en étant accompagnés parce que, comme la société est devenue très complexe, si on ne fait pas attention à la réalité de la complexité de notre société, regardez toutes les informations contradictoires que l'on a autour du COVID actuellement, ben, ça montre la complexité des choses. Donc, nous, on a de la misère à s'y retrouver. Alors, imaginez un jeune ado qui doit se retrouver dans notre société un peu bizarre parfois et qui doit trouver ses marques et développer le plus de discernement possible. Donc, il a besoin à la fois de prendre son envol tout en étant soutenu dans le développement de cette indépendance qui naît.
Mais je vous remercie beaucoup, Joël. Mon cortex préfrontal s'en porte mieux. Et j'ai envie de vous demander, en terminant, je sais que vous faites plein de belles capsules vidéo. À quel endroit on peut les écouter?
Ah, le plus simple, c'est d'aller sur le site cerveau-et-psychologie.com.
Ah, que c'est simple. J'aime ça. Je vous remercie grandement d'avoir collaboré au fil du temps et merci d'avoir rassuré la maman en moi.
Avec grand plaisir.